Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 14 décembre 89.
On peut parler très longtemps de l'imaginaire et de l'imagination. Il y a aussi là, dans la lumière de ce qu'on disait ce matin, une image de l'infini. Nous portons en nous cette sorte de représentation d'un abîme indéfini. Oui, les nuages qui se succèdent. Et on aime de faire le planeur. On se laisse aller. Je crois que c'est la séduction de l'imaginaire, ça. On se laisse aller. C'est, au point de vue proprement philosophique, cette chose très curieuse, si on compare les sensations à l'imagination, c'est que dans les sensations, la détermination est objective, elle vient de la réalité. Tandis que dans l'imaginaire, la détermination vient du sujet, de l'homme qui imagine. Vous voyez, il y a un renversement qui se fait dans l'imaginaire. Je crois que c'est capital de comprendre cela pour saisir comment peut naître l'idéalisme. Kant a dit quelque chose d'extrêmement intéressant pour le point de vue de l'imaginaire. C'est qu'au fond, la subjectivité transcendantale n'est vraie que pour l'imaginaire. Dans l'imaginaire, on se donne à soi-même son objet. C'est pour ça que c'est si reposant. Se donner à soi-même son objet. On est la mesure de ce qu'on imagine. L'homme a toujours cette tentation d'être la mesure du monde. C'est une tentation permanente. Ce serait tellement agréable de faire que tout ce que je connais est relatif à moi et que c'est moi qui mesure tout. Eh bien, on sent bien cette petite tentation permanente. Et ceci est vrai de l'imaginaire. Dans l'imaginaire, je suis la mesure. Parce que le propre de l'imaginaire, propre de l'imagination, c'est d'être une connaissance qui se fait dans le devenir. C'est un devenir dans une représentation toujours croissante. Croissance dans l'imaginaire. On construit constamment. Une image en remplace une autre. Une représentation en remplace une autre, et ainsi de suite. Et pourtant, naître celle-là. C'est pour ça que je dis la subjectivité transcendantale qui, dans un mouvement permanent, se construit. Une sorte de mouvement dialectique. Je crois que le mouvement dialectique ne peut se comprendre que par l'imaginaire. Oui, il y a deux choses capitales dans le propre de l'imagination, dans le fruit et l'image. C'est d'une part cette subjectivité transcendantale. On se donne à soi-même son objet. On se donne cet objet dans un mouvement. Causalité efficiente et source de la détermination. La causalité efficiente, le devenir, est source de la détermination. C'est très étonnant parce que c'est ce qui se passe exactement dans le vécu de la phénoménologie, où le devenir devient source de détermination. s'aperçoit que l'imaginaire, dans le monde d'aujourd'hui, dans les philosophies contemporaines, explique tout ce que ces philosophies disent. On ne dépasse pas l'imaginaire, on ne dépasse pas la représentation. On est un monde qui demeure dans l'imaginaire. Un imaginaire lié aux passions.
Pas une source de création. Donc on s'enracine dans le passé,
Mais l'imaginaire vous donne une nouvelle synthèse du passé vers le futur. Vous voyez, c'est l'instant présent qui est supprimé. L'instant présent est supprimé parce que le jugement d'existence n'existe pas dans l'imaginaire. C'est le passé dont on se sert pour le futur. Et l'instant présent est télescopé. Oui.
C'est l'antidogmatisme.
C'est l'antidogmatisme. Oui, si vous voulez, mais ça, c'est un jugement extrinsèque. J'essaie philosophiquement de voir ce qu'il y a de positif dans l'imaginaire. Le danger, c'est que l'imaginaire arrête le point de vue de l'intelligence. Oui, je dirais, c'est anti-philosophique. L'imaginaire, c'est ce qui me fait dévier de la recherche et de l'analyse. Parce que l'imaginaire, je ne l'analyse pas. Je suis dans leur descriptif de la représentation. Et dans cet imaginaire, je ne vois pas de possibilité de détermination absolue. Tout est relatif. Et ça se continue indéfiniment. L'absolu, c'est le devenir permanent et constant. Vous voyez ? Alors c'est sûr que, en définitive, au plan critique, je dirais que c'est quelque chose qui lutte contre toute détermination. Donc en définitive, contre le dogmatisme.
Est-ce qu'on peut dire que l'imagination réinvente la liberté et la vie ?
L'imaginaire est une invention constante. C'est ça sa séduction. Alors, il y aura un imaginaire lié à l'intelligence qui pourra être un imaginaire artistique et poétique. Il y a un imaginaire lié à l'affectivité qui pourra être les grands rêves romantiques. C'est des rêves romantiques d'amitié, la reine et la bergère, le roi et ainsi de suite. Vous voyez, je suis le centre du monde et tout le monde me reconnaît. Enfin, on est dans une reconnaissance vraie. Jusque-là, on m'ignorait. C'est la violette qui devient pivoine. Quoi. On voit très bien. Ça, c'est l'imaginaire affectif. Et puis, il y a l'imaginaire pur. C'est ça que j'essaie de saisir. Là, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? La coupe, vous voyez, philosophique de l'analyse de l'imaginaire. Une connaissance qui présuppose toujours une autre connaissance. Donc qui provient d'une autre connaissance. L'imaginaire provient de nos sensations et de notre sens commun, qu'on va voir tout de suite. C'est entre les deux. Le sens commun. Et puis l'imaginaire est une connaissance de disposition vers autre chose qui sera la connaissance intellectuelle. Le passage de la représentation à la signification. Donc c'est une plaque tournante, l'imaginaire. C'est la gare de triage. Richesse extraordinaire. Quand on regarde une gare de triage, une grande gare de triage, ça va dans tous les sens, toutes les possibilités. Eh bien, c'est ça l'imaginaire. Il y a toutes les possibilités. Vous restez dans le possible. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. C'est au-delà de la contradiction. Ou en deçà. C'est plutôt en deçà. Puisque vous êtes dans un devenir permanent. Il y a un devenir qui se refait tout le temps. Comme vous êtes dans un devenir qui se fait tout le temps, vous êtes en deçà de la contradiction. C'est pour ça que les gens qui sont pris par l'imaginaire disent des choses contradictoires. Deux minutes. En deux minutes, ils suivent tout le monde. Mais ils ne voient pas qu'ils sont dans la contradiction. Ils sont persuadés qu'ils vivent dans le réel. Et que c'est le réel. Alors vous voyez, comme c'est enivrant d'être au-delà de la contradiction. Il n'y a rien de plus enivrant que ça. Parce qu'on construit son monde. C'est pas le monde réel, c'est notre monde imaginaire. Et on construit ce monde imaginaire. Et on est tout étonné. il y a cette chose très très curieuse que le domaine de l'image est justement l'inversion des sensibles communs, des sensibles propres, ce que je vous disais la dernière fois. Par rapport à la réalité, on est donc dans un monde inverti, constamment. C'est pour ça que l'imaginaire permettra toutes les perversions morales. Toutes les perversions morales proviennent de l'imaginaire, parce qu'on est dans un monde inverti. Ce n'est plus l'ordre des sensibles communs en vue des sensibles propres. Ce n'est plus la réalité qui me mesure, c'est moi qui me donne à moi-même mon propre domaine. Et donc l'imaginaire sera, quand il est lié aux passions, sera source de toutes les perversions. Source de toutes les perversions affectives et source de toutes les perversions intellectuelles. Parce que l'idéalisme est une perversion intellectuelle. L'ontologisme est une perversion intellectuelle. De gauche ou de droite, ça n'a plus d'espace important. On la retrouve des deux côtés. Et puis, il y a l'imaginaire qui, lui, est rectifié et assumé par l'intelligence dans le domaine artistique, dans le domaine mathématique, dans le domaine philosophique. Il y a trois manières dont l'imaginaire est assumé. Dans le domaine artistique, l'imaginaire détermine. Dans le domaine mathématique, alors c'est beaucoup plus difficile de voir comment l'imaginaire, au sens strict, ne détermine pas. Mais il est fondamental. Et dans le domaine philosophique, il est uniquement un support. Et je crois qu'il y a trois degrés où l'intelligence assume l'imaginaire. Parce que dans le domaine affectif, l'imaginaire est très gênant. Ce qu'on doit atteindre, c'est l'ami. Et quand à la place d'atteindre l'ami, vous atteignez votre représentation de l'ami, c'est catastrophique. Vous avez imaginé l'ami comme un dieu. Ça passe très vite hein, à l'idolâtrie par l'imaginaire. L'imaginaire nous rend idolâtre. Alors vous avez imaginé l'ami comme quelqu'un d'extraordinaire, merveilleux. Puis vous dites avant, je vais vous. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus réaliste entre nous. Puis à ce moment-là, ça dégringole. Ça explique quand il est divorce. On a idéalisé. Puis la vie commune, elle vous montre que c'est pas ça. Miss idéal n'est pas du tout Miss idéal. L'ami que je considérais comme vraiment un idole, je m'aperçois que c'est pas ça du tout. Dès qu'il est descendu de son piédestal, il marche comme tout le monde. Et il se met en colère comme tout le monde. Et il est limité comme tout le monde. Et il est égoïste comme tout le monde. Et il y a des tas de choses comme ça. Alors à ce moment-là, ça dégringole. La mousse n'est plus mousse. Elle revient. C'est très curieux le domaine de l'imaginaire. Mais c'est très intéressant de l'étudier. Ayez dans vos études, je les dirais, un rayon, l'imaginaire. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est très très important d'essayer de comprendre et d'essayer de comprendre les lois de l'imaginaire. En rectifiant toujours, du moins en précisant toujours l'imaginaire lié aux sensibles, l'imaginaire lié à la l'imagination est plus liée à la vue, à l'ouïe, au toucher. C'est très curieux. Notre imagination est polyvalente. Elle est polyvalente. Mais il y a toujours une note dominante. Ça, vous pouvez le détecter. Hein, avec un tout petit peu de réflexion, vous pouvez très bien détecter que votre imagination est plus... Ça, et ça fait partie, vous voyez, de l'ouverture du cœur. J'ai une imagination visuelle. J'ai une imagination tactile. Il y a une conscience qu'on doit avoir de soi pour savoir quel est le lien dominant parmi ces cinq. Mais entre les sensations et l'imaginaire, il y a ce qu'on appelle le sens commun. Ce qu'Aristote appelle le sens commun, c'est pas du tout le sens commun de Descartes. C'est pas du tout ce qu'on appelle aujourd'hui le sens commun. Donc distinguez bien les deux. Le sens commun de Descartes, c'est le bon sens. C'est ça qu'on appelle le bon sens. Ah, oh, celui-là, il a du bon sens. Ce qu'on aime de trouver dans un homme campagnard, un rural, comme dirait Monseigneur, un rural, c'est le bon sens. Parce que il a les deux pieds dans de la glaise. Il sait ce que c'est. Alors, il sait très bien ce que c'est. Alors, il a du bon sens. Vous voyez, c'est une activité de l'intelligence liée à nos expériences. L'homme de bon sens ne quitte pas l'expérience. Ça, quelquefois, c'est un petit peu énervant. Parce qu'il ne décolle jamais, que voulez-vous. Il a tellement de glaise à ses pieds qu'il ne peut pas décoller. Il reste lié à l'expérience. Ça, c'est le bon sens. C'est très utile. Dans un monde comme le nôtre, qui est terriblement imaginaire, où l'imagination domine, on aime de rencontrer ces gens-là. Tout droit leur chemin. Le bon sens. Ce que j'appelle ici sensus communis. Ce que saint Thomas appelle sens commun. Ce que Aristote appelle sens commun. C'est justement que dans cette diversité des cinq sensations, il y a une certaine unité. Le sens commun permet les analogies entre les diverses sensations. Et c'est vrai, il y a certaines analogies entre la vue et l'ouïe. Et vous comprenez que cette unité se réalise à travers les sensibles communs. Puisqu'ils sont communs, ils forment l'unité. Mais les cinq sensations sont diverses grâce aux sensibles propres. Donc, il faut bien comprendre cette distinction sensible commun, sensible propre. Je crois que vous commencez un petit peu à la saisir. Hein. Les sensibles communs, les cinq sensibles communs qui sont saisis par des sensations diverses. Le compte, la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos, la figura. Alors c'est très curieux, parce que ces cinq sensibles communs nous permettent de comprendre comment le sens commun peut unifier les diverses sensations grâce à ces cinq sensibles communs. Alors ce sera intéressant de voir, ça n'a pas été fait, ça on peut le faire assez facilement, de voir comment la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos, la figura, c'est le sens le plus radical. Et puis la vue, la vision, l'horizon. Le ciel, la voûte, c'est la grandeur. Le toucher et la vision, voyez les deux extrêmes de nos sensations qui vont avoir une possibilité d'unité grâce à la grandeur. Et c'est le sens commun qui fait ça. Et je le fais au niveau même des sens. Ce n'est pas les sensations, c'est quelque chose d'au-delà. Et l'imaginaire va venir au-delà du sens commun, inverser les sens, l'ordre des sensibles propres et des sensibles communs. Pour les sensations, c'est par le sensible commun du toucher. Le sensible commun du toucher, c'est le chaud ou le froid. C'est ça que je touche en premier lieu. Mais c'est pas la même chose. Une goutte d'eau très chaude et un bassin énorme d'eau chaude. Au point de vue de la sensation, c'est très différent. À un moment donné, imaginativement, si vous n'êtes pas en acte de sensation, la grandeur l'emportera. Et alors vous aurez, à partir de l'unité des deux, vous allez pouvoir avoir l'image. Et l'image est toujours à partir de la grandeur. Le fondement d'une image, c'est la grandeur. Ou c'est le nombre. Ou c'est le mouvement. Ou c'est le repos. Ou c'est la figura. Et il y aura inversion. Les sensibles communs seront premiers. Et là-dessus, les sensibles propres reviendront. Vous voyez ? Et c'est bien les sensibles communs qui permettent cette inversion. Puisque c'est par les sensibles communs que l'unité se fait et l'imaginaire va se servir de cette unité pour inverser et représenter. Vous voyez, c'est très important de saisir dans notre vie, dans notre expérience du monde physique, du monde sensible, ces trois moments, la sensation, l'imagination et le métaxu, le sens commun. Et le métaxu qui met en lumière l'unité qui se fait par les sensibles communs. Et ce métaxu est pris en premier lieu par l'imaginaire. Parce que grâce aux sensibles communs, je peux faire des synthèses. Je peux faire des mélanges. Les sensibles propres refusent la synthèse. C'est pour ça que le vrai philosophe n'aime pas la synthèse. Il aime les recherches vers le point de vue ultime. La synthèse est toujours un peu imaginative. Synthèse du passé, synthèse du futur. Un projet imaginatif. Hegel identifie philosophie et synthèse. Leibniz identifie philosophie et synthèse. Toute philosophie idéaliste identifie philosophie et synthèse par l'imaginaire. Aristote ne parle pas de synthèse. Et saint Thomas non plus. Il dit la somme théologique. Pas la même chose. Pas la synthèse théologique. Dès que vous voyez synthèse théologique, ah, voilà la marque de l'idéalisme. Aujourd'hui, ça se dit constamment. On dit synthèse philosophique. Mais non, il n'y a pas de synthèse. Pour faire la synthèse, c'est vous qui êtes le la synthèse philosophique, devant la diversité des réalités. On ne peut pas faire la soupe commune de l'araignée, de l'éléphant et de l'homme. C'est la soupe du samedi, tous les restes de la semaine. Alors, vous voyez, c'est... C'est horrifiant. Alors, par pauvreté, on laisse l'imaginaire passer devant l'intelligence. Et c'est pas artistique du tout. On le sent très bien. Il peut y avoir une pauvreté imaginative. On croit que c'est pauvre. Mais c'est peut-être pas du tout. Parce que si vous rendez tout le monde malade, c'est pas pauvre. Vous aurez des frais de pharmacie qui dépasseront tout simplement le simple fait de maintenir le sensible propre à sa place. C'est très étonnant, ces choses-là. Mais je crois que c'est très important de réfléchir sur nos cinq sensations. L'unité du sens commun par les sensibles communs. Mais il n'est pas une véritable unité. Les sens communs, c'est pas une véritable... C'est commun. Tout est sensible commun. Mais c'est une unité dans la diversité. C'est un fondement. Et l'imagination qui va se servir de ces sensibles communs pour donner des synthèses. Et l'image est toujours une synthèse. Le mont d'or. La montagne d'or.
Mais Hubert, comment est-ce qu'on peut poser un sens commun qui appelle des choses aussi différentes que la grandeur, la figure, le repos ?
Ben oui, rigolez-vous. C'est le même sens qui fait ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours, à travers la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos, la figura, quelque chose de commun. Et quel est ce quelque chose de commun ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Entre grandeur, nom, mouvement, repos, figura. C'est la quantité. Et la quantité, c'est quoi ? C'est le divisible, c'est ce qui fonde la représentation. C'est le mesurable. La quantité, vous la mesurez. Et donc, c'est l'homme qui fait l'unité de ce qui en soi est infiniment divisible. Vous voyez, c'est le fondement de la subjectivité transcendantale. Il y a un lien très fort entre l'imagination et la quantité. L'imagination, c'est en quelque sorte une quantité qui est parfaitement connue. Je m'installe dans la quantité. Mais une quantité subtile, c'est pas une grosse quantité comme la quantité qui existe, mais c'est une espèce d'éclairage de la quantité. C'est le divisible, sensible, puisque c'est pas encore l'intelligible. Il y a tout un aspect très important à saisir entre le lien entre l'imagination et la quantité. Et c'est bien dans ce sens de l'unité des sensibles communs qui permet alors une nouvelle synthèse, un nouvel alliage, pour dire un alliage, une nouvelle harmonie, des proportions nouvelles. Parce que vous chambardez les proportions premières données par la réalité existante. Sensible. L'imaginaire va tout reprendre à sa manière. l'imagination. Alors, la réalité sensible, existante, est pleinement absorbée par l'imagination. C'est ça que j'aime. J'ai absolument digéré ça. C'est mon image. J'ai ma représentation du monde. J'ai ma représentation de tel ou tel individu. C'est pas sa photo. C'est sa photo intérieure. Ah, je vous ai vu. Oh, mais oui. Oh, mais je vous connais. Je vous ai vu. Oui, la représentation. Et on possède la photo d'identité. Vous faites partie de mon monde. J'ai un flash sur vous, imaginatif. Et c'est d'autant plus assimilé que vous l'avez moins vu. Vous avez vu quelqu'un une fois, dans telle ou telle circonstance. Vous avez ce flash qui demeure. Et vous possédez au-dedans de vous-même cette représentation. Alors, avec le temps, ça s'estompe. Sauf, si la passion s'y mêle. Et alors, à ce moment-là, colore affectivement cette représentation qui devient progressivement un idole ou une idole. C'est comme ça que se créent les idoles. C'est imaginatif, c'est un phénomène imaginatif extraordinaire avec le point de vue de l'affectivité. S'il n'y a pas la rectification du jugement d'existence et de ce que représente le seul être qu'on peut adorer, qui est le Créateur, il y aura des quantités d'idoles. Vous voyez ? C'est pour ça que l'imaginaire joue un rôle si important. Parce que il nous permet de comprendre ces bouffées profondes qu'on sent en nous d'autonomie. On est autonome si on devient la mesure de toute chose. On est autonome si nos représentations sont considérées comme la seule chose importante. Et vous pouvez jouer avec ces représentations. L'imaginaire va impliquer en plus, donc avant l'imaginaire, le sens commun, après l'imaginaire et les images que vous les gardez, vous avez la mémoire. La mémoire du passé.
Et c'est la méditation peut être une représentation. Alors
faut bien faire une icône de la Vierge Marie. Alors, fais une icône de la Vierge Marie, où ça représente la contemplation dépasse l'imaginaire pour toucher le réel vivant actuel. C'est dans ce sens-là que l'imaginaire et la mémoire peuvent être les ennemis terribles de la contemplation. D'un dépassement intellectuel et les ennemis terribles de l'intelligence tout court dans la philosophie. Parce que ça arrête. C'est tellement séduisant. C'est terriblement séduisant, les images. C'est terriblement séduisant, le passé. Surtout le passé agréable. C'est tellement séduisant. Or, vous avez le choix. Vous pouvez vous représenter le passé enivrant.